à tous, je m'appelle Cassandra et je souhaite vous aider à trouver des solutions en matière d'orientation. Et oui, ne vous est-il jamais arrivé de douter de vos orientations professionnelles, de vous lever le matin sans passion et de vous sentir piégé? Hashtag orientation professionnelle éclairée, c'est le podcast qui va vous faire partager le quotidien de personnes au parcours différent avec des récits singuliers, passionnants et ouverts à tous. Alors tendez l'oreille, ici c'est Hope. Aujourd'hui, nous accueillons Maximilien. C'est un jeune homme de 26 ans qui est actuellement ambulancier. Il a tout d'abord fait la quasi-totalité de sa scolarité à la Cité scolaire internationale de Lyon, qui permet aux jeunes d'assister à des cours dans une langue étrangère. Et pour lui, ça sera le polonais, qu'il pratique déjà grâce à ses origines. Le bac en poche, il décidera de se laisser encore un peu de temps avant de se décider à rentrer dans l'armée. Il va vous expliquer les hauts et les bas de ce statut si particulier, avant de vous dire pourquoi il a décidé de ne pas prolonger son contrat. Son parcours est remarquable, c'est ce qu'il veut et va jusqu'au bout de ses idées. Bonjour Maximilien, bienvenue dans notre podcast. Je pense que pour le bien de ce podcast, on va t'appeler Max,
oui, oui,
si ça te va. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es, l'âge que tu as et du coup le métier que tu exerces actuellement?
Bien sûr. J'ai 26 ans. Actuellement, je suis ambulancier.
Ouais.
Donc, peut-être que certains reconnaîtront, je suis le mari d'Emeline, qui a aussi un épisode avec toi.
Ouais.
Donc on est juste mariés depuis 6 mois, on a habité ensemble, et puis je suis passé par différentes expériences dans ma vie, même si j'ai que 26 ans.
Ouais.
Et actuellement, je fais un métier qui me plaît. Voilà, je suis à l'hôpital Édouard Herriot
à Lyon.
Et je travaille, c'est ça, à Lyon. Je travaille pour les hospices civils de Lyon.
Okay.
Voilà, dans la fonction médique.
Bah, top, merci. Est-ce qu'on peut remonter un peu dans le temps et aller au collège? Alors, toi, t'étais quel genre d'élève au collège?
Bon, alors, j'étais le genre d'élève un peu basique, on va dire. Hein. Pas plus travailleur que les autres, mais qui a pas des mauvaises notes. Donc, un peu atypique, un peu comme tout le monde. J'ai débuté ma scolarité à la Cité scolaire internationale de Lyon, à Gerland, dans le quartier de Gerland.
Ouais.
Pour faire plus court, on appelle ça la CSI. Mmh. Le concept de cette école, c'est une école publique, mais dans laquelle, en fait, tu peux avoir une section linguistique à laquelle tu es rattaché. Pour ma part, c'était la section polonaise, puisque ma maman est polonaise, et du coup, elle m'a transmis le savoir culturel et linguistique de la Pologne. Donc, grâce à cette école et à l'enseignement que j'ai reçu, je suis bilingue polonais.
Super.
J'ai pu passer mon bac en polonais, et le concept rapidement pour l'école, c'est qu'en fait, on a tous les cours identiques au collège et au lycée des autres plateformes en France. Mmh. Simplement, en plus, on a 8 heures de polonais en plus de cours normaux. Donc, 6 heures, il me semble, de littérature polonaise et 2 heures d'histoire-géographie en polonais.
D'accord.
Sur la Pologne.
Ah oui, donc quand même assez concentré et très cadré du coup sur le pays que tu choisis. Et pour le coup, toi, c'est ton pays d'origine. T'es rentré à quel âge du coup à la CSI, toi?
Il me semble que c'est en CM1, donc je devais avoir 10 ans ou 11 ans.
Ouais. Et on peut pas très bien savoir le niveau d'un jeune de 10-11 ans, souvent en termes de langue, mais vu que ta maman t'avait parlé notamment polonais, t'avais quand même un petit niveau ou... Enfin, ça se passait comment?
J'avais un niveau correct avant d'avoir intégré, oui, le CSI. J'allais régulièrement à l'école polonaise de Lyon.
D'accord.
Donc, ma maman, actuellement, à l'époque non, mais actuellement... est directrice de cette école polonaise.
Mmh.
Et donc, c'est simplement des cours qui ont lieu le samedi matin au collège Saint-Marc.
Okay.
Je ne vais pas me tromper sur l'arrondissement de Lyon, vers Sainte-Foy-les-Lyon.
Ouais.
Et voilà, donc je fais régulièrement des petits cours le samedi matin. Et comme j'ai de la famille en Pologne, ça me permettait de continuer à pratiquer le polonais, même en France, même si je n'ai pas de personne avec qui je pourrais parler quotidiennement de ma vie.
Ok, c'est intéressant ça. Du coup, donc tu es dans cette école-là, donc la CSI, et tu vas du coup t'orienter ensuite pour un bac. Alors, comment ça se passe pour s'orienter, surtout quand on est dans une section un peu internationale? Comment on voit les choses?
Alors, simplement, effectivement, quand on est dans la section internationale, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans différentes sections. Il y avait des sections anglaises, des sections allemandes, des sections italiennes, espagnoles, portugaises. Il y avait un seul chinois, malheureusement pour lui, hein, ouais. Il était tout seul dans sa section. Mais effectivement, ça fait un bon panel culturel. Et pour s'orienter, bon, c'est comme n'importe quelle élève, seulement en plus, on a un avantage, c'est qu'on parle une langue étrangère. Mmh. En plus, du coup, moi, j'étais parti dans l'idée, je ne savais pas trop comment m'orienter, mais je me suis dit, dans l'idée, je vais prendre un bac général et ensuite, je verrai s'il y a des études qui s'ouvrent à moi. Mmh. On m'avait beaucoup expliqué au lycée que le bac S scientifique ouvrait beaucoup plus de portes parce ouais. que effectivement il y a des maths, des physiques, de la chimie, beaucoup de choses qui sont beaucoup plus procédurières et cadrées qui font que ça ouvre plus de portes dans les hautes études. J'étais pas bon du tout en physique et ça me plaisait pas du tout. En maths j'avais à peu près la moyenne mais c'était pas ce qui me comblait de joie, on va dire. Donc j'ai décidé tout simplement par défaut d'aller dans le bac ES, économique et social. Mmh. Puisque le L, littérature, le dernier bac, bac général, était exclusivement réservé pour ceux qui savaient vraiment où s'orienter. Parce que littéraire, il faut avoir une grosse culture générale au niveau livre, au niveau connaissance des auteurs, au niveau mmh. connaissance des analyses de texte. Et ça, effectivement, si on n'aime pas...
Ouais, si on n'aime pas lire à la base...
C'est compliqué.
Ouais, voilà. C'est clair.
Donc, j'aimais beaucoup tout ce qui était antiquité, histoire et mythologie grecque. Et je ne retrouvais pas du tout ces études au niveau bac général.
Ouais.
Donc, je me suis rapproché de l'ES, économique et sociale, sans forcément bien accrocher à tout ce qui est économie.
Mmh. Voilà. Donc du coup, tu passes ton bac, quand même.
Tout à fait.
Même si t'accroches pas vraiment à l'économie, ça ouais, se passe comment?
Et visiblement, ça se passe pas bien, parce que... Enfin, bien. Je l'ai eu grâce au polonais.
Ouais.
Comme je l'ai eu, parce que ça apporte beaucoup de points, ça avait un gros coefficient, surtout dans cette école. Mais par exemple, la matière économique sociale, qui est censée être le summum de cette filière,
ouais.
bah, j'ai pas eu une note exceptionnelle. Hein. J'ai reçu en dessous de la moyenne parce que j'aimais vraiment pas cette matière et je voulais pas la réviser.
Mmh.
Donc voilà, heureusement, grâce au polonais, j'ai pu m'en sortir et j'ai mon bac général ES.
Super, déjà c'est bien. Donc en attendant, tu passes ton bac, mais en point de vue de l'orientation, t'en pensais quoi à ce moment-là? T'avais déjà des idées de métier, des idées de formation à laquelle tu avais envie de participer?
J'avais pas forcément d'idées déjà formées. J'étais toujours dans cette optique de me dire je vais peut-être m'engager à l'armée.
Ouais.
Parce que mon père a été militaire quelques temps et il me motivait beaucoup pour ce métier. Et moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai été scout.
D'accord.
Scout dans la ville de Lyon.
Mmh.
Et j'ai beaucoup apprécié tout ce qui était discipline, tout ce qui était sport, activité, tout ce qui était bivouac, camping, et randonnée, marche. Je me disais, ça ne me déplairait pas d'être à l'armée. Et voilà, donc je me suis dit, bon bah, pourquoi pas, je vais essayer de voir où est-ce que pour m'engager. Je voulais pas forcément m'engager en tant que soldat de base, parce que j'avais justement un bac, je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter une école militaire. Donc je me suis dit, le temps de m'y réfléchir, d'y penser, je vais faire une année de fac. Et on m'avait beaucoup parlé, une personne en particulier m'avait parlé de ça, d'une remise à niveau scientifique. Je ne me rappelle plus du nom du tout.
Ouais, mais en allant un petit peu chercher, c'était à Lyon 1, c'était,
ça
s'appelle
ouais.
du coup année universitaire préparatoire de remise à niveau scientifique.
Ça doit être ça, oui, voilà. Et du coup, c'était une sorte d'année où on reprenait beaucoup tout ce qui était mathématiques, physique, chimie, SVT, et c'était vraiment cadré sur le scientifique, justement, pour en quelque sorte remettre à niveau, d'où le nom de la filière, d'autres filières bac pro ou ESL pour atteindre le niveau scientifique du bac S.
Ouais, mais pourquoi faire finalement cette année de fac plutôt que, je sais pas, aller faire autre chose en attendant de réfléchir et de faire mûrir ton idée, genre comme tu dis, par exemple faire des stages ou des choses comme ça?
Je me suis dit que c'était peut-être mieux parce que au moins sur le CV, il y aurait cette année marquée année préparatoire scientifique. Donc même si c'est pas bien stipulé, je me suis dit ça peut toujours être un avantage de dire bah il a quand même pris le temps de prendre une année pour se remettre à niveau pour
c'est vrai.
Pour passer au niveau scientifique. Même si derrière j'avais pas d'idée de grandes études longues en tant qu'ingénieur ou quoi.
Ok. Donc la fac, ça se passe comment ?
Ça se passe que pas forcément le mieux au monde, puisque j'étais sur le premier coup assez heureux de pouvoir aller à la fac, et parce que c'est un endroit où on est assez libre en fait. On fait ce qu'on veut, on peut venir au cours ou ne pas y aller, on peut choisir les cours auxquels on n'accède pas. Le seul couac, c'est que les professeurs sont pas là pour surveiller les élèves. Du coup, si on n'a pas un travail personnel assez régulier et assez
fourni,
exactement, on risque de se casser rapidement la figure. Hein.
Voilà.
Et c'était un peu mon cas, hein, parce que j'étais assez heureux de dire super, j'ai que 10 heures de cours par semaine, c'est génial, c'est formidable. Et puis arrivé au partiel, le premier semestre, je crois que j'ai eu 2 sur 20 en physique.
Ouais.
Alors que c'était le but de l'année, de reprendre un peu de niveau au niveau scientifique. Et je me suis littéralement. Je suis littéralement tombé de mon pédestal.
Ouais.
Et effectivement, voilà, j'ai pas beaucoup fourni de travail, seulement vers la fin d'année où je me suis dit, bon, faut quand même que j'essaie d'avoir cette année, parce que si j'ai entamé une année à la fac et que je l'ai même pas réussi, ça va vraiment pas le faire du tout, même pour le CV, même pour mes futurs employeurs. Entre-temps, j'essaie de voir ce que je pouvais faire.
Avec toujours cette idée.
Toujours cette idée de l'armée et cette idée d'école militaire. J'avais pensé à l'école militaire de Saint-Mexant, dans laquelle on est formé directement en tant que sous-officier de l'armée de terre.
D'accord.
Du coup, j'étais allé voir tout ce qui était centre de recrutement de l'armée de terre. Mmh. C'était les CIRFA, centre d'information et de recrutement des forces d'armée.
Mmh. Si ça en intéresse certains d'ailleurs, allez voir. On trouve les informations facilement de toute manière.
Oui, bah, y a le site du gouvernement, c'est assez bien écrit. Le seul hic, c'est qu'il faut faire attention parce que, comme dans n'importe quelle filière, je pense, avec un employeur, l'armée de terre cherche à recruter des personnes et à les mettre là où ça l'intéresse elle, et pas forcément ceux qui postulent. Donc, s'il faut s'engager, c'est une très bonne idée, mais il faut avoir un projet. Ou alors ne pas avoir de projet et y aller sans objectif, sans but.
Voilà.
Enfin, pas sans but.
Mais peut-être sans attache, peut-être
sans attente particulière.
Ouais, ou attente particulière. Ouais. Parce que c'est vrai que si on vit encore chez ses parents, mettons, on a 18 ans, on a envie de s'engager dans l'armée et qu'on se retrouve catapulté je ne sais où, c'est vrai que ça peut être un petit peu choquant, déstabilisant. Il y a un moment où on se dit waouh, mais j'avais pas prévu ça, mais il faut en avoir conscience.
Mm-hmm. Tout à fait. Bah, ça change radicalement de vie, le fait de s'engager.
Du coup, tu t'es engagé.
Je me suis engagé. J'avais pensé, comme j'ai dit, à Saint-Mexant. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de demandes et je vais attendre, je crois, un an ou un an et demi avant de pouvoir intégrer l'école. Et quand j'avais fait un an de fac, je me suis dit, mais je pourrais pas tenir encore un an sans rien faire, en fait.
C'est
parce que je n'étais pas du tout avancé, j'avais pas de salaire, j'avais rien, je me sentais pas du tout autonome. Et j'étais encore chez mes parents. Je me suis dit, bon, alors je vais plutôt m'engager là où il y a des places. Donc, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je suis allé voir mon recruteur de l'armée de terre et lui m'a gentiment expliqué qu'il cherchait des places dans l'armée de terre, en particulier dans un régiment du génie militaire.
Alors, c'est quoi le génie militaire ?
Alors, lui, il me l'a vendu, on va dire, genre, tu as vu le film Des mineurs, le gars avec l'armure complète qui vient pour enlever les bombes dans le métro. métro et dans les centres commerciaux, c'est ce que tu vas faire, c'est génial.
Je
vais être un héros national. Je vais pouvoir faire la guerre aux méchants djihadistes, ça va être formidable. Et en fait, pas du tout, parce qu'il y a énormément de choses derrière. Et ça, c'est vraiment ce que les films américains nous vendent. Mm. L'armée française ne fonctionne pas du tout comme ça.
Elle fonctionne comment, l'armée française?
Elle fonctionne qu'en fait, ce sont vraiment les spécialistes avec beaucoup d'expérience qui font ce genre d'intervention. Moi, en particulier, dans le génie militaire, mon but était simplement de trouver les éléments piégés, de délimiter un cordon de sécurité, et ensuite, on laisse intervenir les spécialistes.
D'accord.
C'est pas moi qui veux venir, fil bleu, fil rouge.
Ouais.
C'est pas mon niveau.
Ouais, du coup, en fait, tu te rends compte que t'allais pas devenir un super héros de la France.
Non, et c'était pas forcément ce que je cherchais à l'armée. Mmh. Moi, personnellement, le recruteur pensait que ça allait m'intéresser. Mmh. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, comme je voulais refaire une année en fait de fac, j'ai demandé à ce qu'il y ait le recrutement le plus proche. Et effectivement, il m'a sorti un contrat dans lequel j'étais recruté dans les 3 mois qui suivaient.
Ah oui.
Donc c'était assez rapide. Donc j'avais fini mon année en juillet, je crois, et octobre j'étais engagé.
Ah oui. Donc bien.
Très rapide. Et voilà. Donc j'ai commencé le 2 octobre 2012, je crois, un engagement à l'armée de terre, et j'ai signé un contrat de 5 ans.
De toute façon, pas le choix, c'est 5 ans ou rien.
Il y a différents contrats.
Ah, c'est intéressant.
C'est ça qui est intéressant. Alors, attention à ceux qui vont choisir les contrats. Le contrat part sur le principe qu'on s'engage pour le nombre d'années qui est situé sur le contrat. Impossibilité de rompre le contrat.
C'est pas un CDD ou un CDI où on se dit.
On fait une démission à l'amiable, ouais. Rupture conventionnelle, non, ça n'existe pas. C'est un contrat de telle date à telle date, point. Donc tout est stipulé dans le contrat. Mais voilà, il faut se dire qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent partir, donc rompre un contrat, mais ce sont des déserteurs ensuite.
Ouais.
Ce qu'on appelle un déserteur. Donc un déserteur, c'est celui qui va rompre le contrat de force et qui va partir du régiment et ne plus revenir.
C'est... Qu'est-ce qui lui arrive à lui ?
Il y a de grosses conséquences derrière. Les conséquences sont principalement suivantes, c'est qu'on est déjà en liste noire de la fonction publique. Donc tout ce qui est métier de l'hôpital, métier de l'éducation nationale, métier dans un gouvernement politique,
ouais.
Tous ces genres de métiers qui sont rattachés à l'État, c'est mort parce qu'on est marqué en liste noire. C'est déjà stipulé sur le cahier des charges toutes les informations du gouvernement. Cette personne est déserteur, on ne peut pas lui faire confiance. Ouais. D'un contrat.
Donc pour toute la vie, hein, c'est pas...
Pour toute la vie, oui, c'est déserteur.
Ouais.
Casse un contrat, c'est fini. Ensuite, il y a d'autres conséquences, c'est qu'il y a des risques d'aller au tribunal. Tout dépend de comment la rupture s'est faite, si c'est faite sur la violence avec un cadre, si c'est faite avec une bagarre avec des collègues, si c'est fait sur... simplement une disparition ou s'il y a derrière d'autres problèmes. Il y a aussi le fait qu'il faut rembourser tout l'argent que l'armée de terre a investi.
Ouais, donc c'est peut-être important d'en parler. Peut-être que certains qui ont déjà passé la JDC sont au courant, mais c'est vrai que l'armée propose à ceux qui rentrent à l'intérieur, voilà, de leur payer certains.
Beaucoup de formations.
Voilà, certaines formations, notamment, tu disais en off le permis voiture,
véhicule léger, le permis poids lourd.
Voilà.
Parfois même des formations sur le secourisme, la FGSU 1 et 2, des formations pour être formateur secouriste. Des formations sur les armes, des formations sur la gestion d'une équipe, etc. La formation sur, moi particulièrement, sur tout ce qui est mines, grenades, explosifs. Et tout ça, si on est déserteur, si on casse un contrat, il faudra le rembourser.
Et ça coûte très cher.
Pour information, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'un permis de poids lourd, c'est environ 3000 euros.
Ouais.
Okay. Donc, si on n'a pas de quoi payer, attention à ne pas déserter.
Ça, c'est sûr. Voilà. Après, c'est chacun pour soi, là, pour le coup. Ouais. Sans son âme et conscience.
Au contrat, il y a différents types de contrats, c'est pas 5 ans. Juste.
Ouais.
Quand moi je m'étais engagé, c'était un engagement soit sur 3 ans de contrat, ouais, soit 5 ans, soit 10 ans.
Ah oui.
Depuis, ça a évolué.
Ah ouais.
Il y a différentes possibilités. Je crois qu'on peut faire un contrat de 1 an, on peut faire différents contrats. Je peux pas dire, je me suis pas renseigné depuis.
Bah, allez vous renseigner, parce que j'essaierai de me renseigner pour en parler un peu plus précisément dans le.
De toute façon, les sites, hein, l'armée-recrute.fr, il y a tout qui est marqué dessus.
C'est bon à savoir, parce que c'est vrai que donner 5 ans de sa vie, c'est pas rien, mine de rien. On se retrouve à donner 5 ans, bon, certes, en échange de formation, etc. Mais il faut pas, dans 3 ans, avoir envie d'autre chose, parce qu'il restera 2 ans à tenir.
Il restera 2 ans, donc il faut nous faire ça malgré tout. C'est ce qui m'est arrivé un petit peu pendant mon passage à l'armée, c'est-à-dire qu'il y a eu des hauts et des bas, de toute manière. Hein. Et c'est vrai que bon, je me suis dit, je veux pas gâcher mes chances, je vais rester avec mon contrat jusqu'au bout. J'ai beaucoup de mes collègues qui ont déserté.
Ouais.
On était une promo d'environ 30 personnes, 30 soldats. Je crois qu'à la fin, on était plus que 5.
Ah ouais, vous avez, d'accord. Mais 5 survivants, quoi.
5 survivants. Alors, je compte pas ceux qui ont été mutés, ceux qui ont décidé de passer dans une autre filière, ceux qui ont décidé de faire une reconversion militaire.
C'est marrant, comme t'en parles, on dirait une vraie formation post-bac. De la manière.
Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être scolaire.
Ouais.
Enfin, je parle en tout cas en tant que soldat de base. Parce que ils recrutent tout le monde. Bon, je veux pas faire de la caricature, mais on sait pas lire, on sait pas écrire, on peut aller à l'armée.
Ouais.
Mais je veux dire, c'est très primitif. Mais il y a pas besoin d'avoir le brevet des collèges. Ils recrutent vraiment tout le monde et ils forment tout le monde de la même manière. Qu'on ait fait un master avant, qu'on ait fait dans le BTP, qu'on soit fils d'agriculteur.
Ouais, c'est tout pareil.
Tout le monde vient au même niveau et est formé de la même manière pendant les 6 premiers mois.
Ouais. Et du coup, en parlant un peu de chronologie, dans les 5 années, est-ce qu'on pourrait revenir du coup quand tu es arrivé, ce qui s'est passé, comment ça se passe? Enfin, la première année, la deuxième année, la troisième année, et ainsi de suite, voilà. Si tu pouvais être un peu...
Il y a beaucoup de choses à dire, mais...
Exprime-toi.
Un peu bref, parce que sinon, ça va être très très long. Non, alors au tout début, avant même d'être recruté, on a différents entretiens avec notre recruteur. Moi, j'avais un recruteur justement au quartier de Gallieni à Lyon, et lui m'orientait justement. Il m'a fait découvrir, il m'a expliqué grossièrement comment se passe l'armée. Donc, il y a l'infanterie en première ligne, il y a la cavalerie derrière, il y a le génie qui soutient les deux armes, il y a l'armée de l'air au-dessus, parce que je parlais effectivement que de l'armée de terre, mais j'étais engagé dans l'armée de terre. Il y a deux autres corps d'armée qui existent, la marine et l'armée de l'air. J'ai pas forcément beaucoup parlé sur ça parce que j'étais pas engagé chez eux, j'étais engagé dans l'armée de terre. Et peut-être que les contrats sont différents, etc. Par exemple, ceux qui veulent être plus dans un peu plus matheux, un peu plus dans l'ingénierie, je leur conseillerais plus d'arriver dans l'armée de l'air et dans la marine parce que la technologie suit beaucoup ces deux corps d'armée, l'armée de terre un peu moins.
Ça semble un peu logique quand tu le dis, ça semble logique. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, dans l'image que je m'en fais,
parce
moi...
Parce qu'effectivement, on a l'image des pilotes de chasse, on a l'image des radars, on a l'image des avions qui développent différentes technologies de scans, d'armes, de rayons, la marine qui développe des sonars, qui développe des armes nucléaires, qui... À côté, moi, dans mon petit char d'assaut, je roule encore au diesel.
Ouais, on n'est pas sûr. Même.
Voilà, c'est pas la même manière de voir les choses. Donc ensuite, après être recruté, on signe un contrat de manière officielle avec différentes personnes en face de nous. Et en général, c'est le jour même du recrutement. Donc moi, j'ai été convoqué à 8h du matin. Et je commençais mon contrat à 10h.
D'accord.
Donc j'avais 2h ensuite pour prendre le train directement à partir du centre de recrutement pour aller directement dans mon régiment. L'avantage, c'est que j'étais à Besançon, donc c'était 2h, 2h30 de train.
Ouais.
Mais j'avais mon train, je crois, 20 minutes après mon contrat. Donc,
ah oui, fils.
Au revoir, papa, maman. On y va.
Ouais, direct.
Et à partir du moment où on est signé, bah c'est signé. C'est,
pas revenir en arrière.
Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de vous vous trompez.
C'est trop tard.
C'est fini. C'est
ça vaut pour n'importe quel contrat. Ne signez pas un contrat sans l'avoir lu.
Tout à fait. Et plus encore dans la mer de terre, parce qu'il y a des conséquences derrière. Donc voilà, je suis parti et j'ai la première année donc se passe dans le sens où il y a une formation générale de 3 mois avec plusieurs corps de l'armée de terre dans lequel on apprend tout ce qui est vraiment basique et c'est vraiment la base de la base. C'est-à-dire on va vous apprendre à vous habiller. C'est un peu ridicule, on a l'impression que bon, je sais pas, je vais m'habiller et tout, mais on va vous apprendre à mettre un treillis, mettre des rangers, s'équiper de gilets de combat, mettre son casque, faire ses lacets. Parce que bon, alors je sais pas si aujourd'hui ça a beaucoup changé, mais c'est que bon, moi j'étais encore avec les rangers en cuir.
Ouais.
Donc il y a une technique particulière pour lacer les chaussures, pour les cirer. On nous apprend à cirer les chaussures. On dit bah c'est bon, je cire une chaussure de vide, mais sauf que là c'est l'armée, c'est une discipline. Alors, je veux dire, c'est discipliné et. Je vais pas dire bête, on est souvent
bête et discipliné. Ouais.
C'est un peu ça, c'est-à-dire que faut pas chercher à comprendre ce qu'on nous fait faire. Tout ce qu'on nous fait faire à l'armée en formation de base, c'est pour nous apprendre la discipline. Donc même s'il y a des choses illogiques, il faut suivre les ordres.
Bah, ça fait un peu penser au film Full Metal Jacket, en fait, quand on parle.
Voilà, Full Metal Jacket, c'est très, très exagéré. Hein. C'est vraiment le recrutement de base de l'armée américaine et pas française.
En
hein.
plus.
Certains de mes chefs essayaient un peu, de temps en temps, de la faire un peu à la Full Metal Jacket. Bon, à côté, après, derrière, quand il y avait un capitaine qui passe à côté, il prenait le chef à côté, il l'engueulait un petit peu parce que...
Ouais.
Il dit, il faut pas faire peur aux recrues, parce que sinon, après, il n'y a plus personne qui vient.
C'est
mais, pas mais effectivement, c'est un peu dans cet esprit-là au début. C'est vraiment... on pousse les soldats à bout physiquement. On nous faisait très, très peu dormir.
Ah ouais? Genre une journée? Par exemple, sur 2 jours, comment ça se passe?
Tout dépend. Alors, tout dépend si le programme, c'était des cours ou c'était des efforts physiques.
Ouais.
Je me rappelle d'une fois où, effectivement, on avait dormi 3 heures dans le week-end en comptant le vendredi.
Oh là là!
C'est-à-dire qu'en fait... Voilà, faut pas avoir peur, mais c'est
si,
vrai
ça
que
fait peur, hein.
les 3 heures de repos sont très 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 reposantes, très nécessaires pour l'organisme.
Ouais.
Mais c'est vrai que tant qu'on enchaîne des activités, en fait, on sent pas trop la fatigue. C'est pas comme un étudiant qui va rester pendant 8 heures devant ses cahiers de cours.
Ouais.
C'est très physique, ils vont beaucoup enchaîner physique et cours. Pour l'anecdote, en fait, on avait enchaîné toute une journée d'entraînement, donc de tir, de démontage ou montage des armes, différentes activités physiques. La nuit, on est parti à 19h faire une marche.
Comme si vous n'étiez pas assez crevé.
On est parti pour une marche de 30 km avec l'équipement complet, donc sac, casque, armement.
Mm-hmm.
On arrive du coup le lendemain matin à 7h du matin. On fait un contrôle des connaissances militaires pendant 2 heures. Donc, j'étais en train de rigoler parce que j'ai certains camarades qui sont en train de s'endormir sur la fin d'examen. Après ça, on partait nettoyer l'équipement puisqu'il avait sali pendant la marche. Et puis on va pas se coucher, on continue.
Bah, mais sur une journée.
Les différentes formations. Donc on reprend tout ce qui est. Sport, footing, entraînement avec les armements, formation combat, etc. Le soir, on arrive, on part sur une petite marche. On a eu peur, c'était 30 km, ça va, c'était juste 5 km. Mais on se pose ensuite pour faire une surveillance de zone. Donc, on creuse un trou de combat, on se pose à l'intérieur, on devait se relever dans une équipe de 3 pour surveiller la zone si l'ennemi arrivait. Bon, bien sûr, c'est un ennemi physique effectif. Hein, mais...
Ouais.
Et bon, bah, on attend. Et on doit surveiller la zone, sachant qu'il n'y a personne qui va venir parce qu'on est en France, dans un camp militaire. Donc, logiquement, il n'y a personne. Mais les cadres, eux, qui ont pu se reposer et se relèvent, bah, ils passent à côté, ils font semblant qu'il y a des ennemis pour qu'on soit vraiment attentif.
En alerte, ouais.
C'est à ce moment-là qu'on a pu dormir 3 heures.
Merveilleux.
Ah bah, avec des relèves et différents gardes, et c'est très reposant, hein. On cherche pas à se dire je suis dans un duvet avec un treillis transpirant, c'est pas grave, on dort.
Ouais, je pense, au bout d'un moment t'es crevé. D'accord, ouais, donc c'est quand même assez physique.
C'est très physique, mais je pense que le physique suit et s'adapte.
Ouais.
C'est pas parce qu'on n'est pas physique de base qu'on ne peut pas espérer passer à l'armée.
D'accord.
Le but de la section militaire, c'est que tout le monde arrive au bout de la formation. Et pas qu'il y en a qui se casse en route.
Ok.
C'est vraiment très discipline et esprit de groupe, esprit d'équipe.
Super, ça c'est bien de le savoir. Du coup, donc la première année, tu enchaînes des
formations pour trois mois de formation générale et ensuite trois mois de formation spécialité. Donc moi j'étais dans le génie, donc tout ce qui était déminage, tout ce qui était minage, donc connaître les différentes mines que l'armée française a proposées. Actuellement on ne peut pas poser de mines antipersonnelles, il y a des traités, enfin ça on apprend tout ça, les traités internationaux, les traités qui ont été signés après la Seconde Guerre mondiale. On peut utiliser que des mines anti-chars, donc pour les véhicules, pas pour les personnels. Différentes choses qu'on apprend, le maniement des armes, donc on apprend ce qui est basique. Quand j'y étais, j'ai appris le fonctionnement du FAMAS, le démontage, le remontage, le fonctionnement du FAMAS. Aujourd'hui, je crois que l'armée de terre utilise les HK-409, qui sont des fusils allemands. Il n'y a plus de fusils français.
D'accord. À titre informatif, ça peut toujours servir.
Voilà. La première année se passe, donc on fait différents entraînements. Quand on est à la caserne, on fait régulièrement du sport, on fait des rassemblements. Je rappelle juste pour quand on nous forme général, je vais dire un truc qui paraît idiot, mais on nous apprend à marcher.
Tu m'intéresses. Vas-y, explique-moi comment on peut t'apprendre à marcher, sachant que c'est quelque chose que tu as acquis quand même il y a pas mal de temps.
Effectivement, quand on dit aux personnes apprendre à marcher, c'est pas marcher de manière individuelle.
D'accord.
C'est marcher en groupe. Les défilés militaires, le 14 juillet, c'est pas intuitif comme marche.
Ça, c'est sûr.
Marcher tous au pas, sur plusieurs rangs ensemble, avec un carré de 40 personnes, c'est jamais évident parce qu'il y a un rythme à avoir, il y a un rythme à suivre, et on apprenait ça justement. Et pour la discipline, faut pas s'étonner, ils font marcher des heures et des heures. Sans rigoler, c'est pas allez, je fais 5 minutes de marche, on appelait ça de l'ordre serré, OS.
Ouais.
Et c'est pas juste marcher pour marcher, c'est vraiment on marche continuellement pendant plusieurs heures pour forcer la discipline et à ce que les soldats obéissent aux ordres.
D'accord.
Moi j'aimais bien ça.
T'aimais bien, bah tu vois, après.
Donc on ne faisait pas cravacher physiquement.
C'était bien de marcher finalement.
Ouais, c'est ça.
Bon, deuxième année, troisième année.
Troisième année, continuellement des formations, différentes formations, par exemple le permis que j'ai passé.
Super.
J'ai passé différentes formations sur les armes, j'ai appris à manier la 12-7, donc c'est la grosse mitrailleuse qu'on voit souvent dans les films américains. La grosse mitrailleuse avec des trous, le
clac-clac. Ouais.
Ils prennent, ils chargent, ils arment avec des grosses bandes à côté. En fait, c'est des balles qui sont de 12,7 mm de diamètre, donc c'est énorme. Et voilà, donc formation pour démontage, remontage, etc.
Mais ces formations-là, tu peux les choisir ou on te les impose? Ça se passe comment?
Tout dépend de comment ça se passe dans la section.
Ah oui.
En général, c'est par rapport à la fonction dans laquelle tu es. Donc, moi, j'étais passé radio-tireur. Radio-tireur, c'est celui qui est en général au sommet du véhicule avec le poste radio et la grosse mitrailleuse. En général, il bouge beaucoup moins. Et c'est celui qui s'occupe de gérer le contact avec le chef, avec les autres véhicules, avec les autres groupes, et qui a la grosse mitrailleuse à proximité pour attaquer les autres véhicules. Alors que l'autre équipe, en général, le reste de mon groupe est à l'intérieur du véhicule et attend d'intervenir à pied si besoin. Voilà. Donc tout dépend de la formation. J'ai d'autres équipiers qui ont eu la même formation que moi, mais c'était pas au poste. Tout dépend après comment ça se passe avec le chef de section, avec l'officier, le sous-officier, et en fonction des besoins, de la volonté des personnes, etc.
D'accord. Du coup, est-ce que ça change beaucoup entre ta première et ta cinquième année? Quels sont les changements flagrants que tu as pu voir?
Les changements flagrants, c'est à partir du moment où on part en mission. Parce que véritablement, quand on part en mission, On met en application ce qu'on apprend.
Ouais.
Je crois que ma première mission, c'était le Mali. Je suis parti en opération extérieure au Mali, en Afrique.
C'était ta troisième, quatrième année ? C'était quand ?
C'était ma deuxième année, je crois.
Deuxième année ? Ah oui, ils envoient tout, hein, finalement. Ça faisait pas très longtemps.
Après, c'est pareil. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau régimentaire. C'est-à-dire que c'est en fonction de la capacité opérationnelle du régiment.
D'accord.
Donc, ça décide à Paris, ça décide des choses de dingue. On fixe des objectifs au régiment chaque année. Et en fonction de la rentabilité du régiment, de la performance des soldats, on décide tel régiment, telle section, telle compagnie, de les envoyer à tel endroit ou pas. Mmh. Si on est dans un régiment qui n'arrive pas à assumer les objectifs, c'est pas eux qu'on va envoyer sur le front.
C'est sûr, ouais.
On va les envoyer faire des petites patrouilles du Vigipirate, où il n'y a pas besoin forcément d'avoir beaucoup de capacité opérationnelle. Par contre, dans les pays où il y a vraiment des conflits armés, on va envoyer ceux qui sont en mesure d'apporter une aide importante.
D'accord. Donc toi, tu te retrouves catapulté au Mali.
C'est ça. Et du coup, bon, j'y suis allé pour 4 mois, je crois. Mmh. C'est ça, 4 mois d'opération extérieure. Et le gros avantage du Mali, c'est qu'on se rend compte, en fait, véritablement de l'existence du monde et de la violence et de la misère, en fait. C'est ce que j'ai retenu du Mali. Donc, les opérations extérieures, ça se passe vraiment, vraiment pas, je tiens à le préciser, parce que souvent, ça revient chez les jeunes, comme dans Call of Duty, comme dans Medal of Honor, comme dans différents jeux de vidéo, c'est archi faux. Ça n'a rien à voir, ça c'est du divertissement, c'est fait pour donner envie. Dans la réalité, on n'a pas plusieurs vies, on n'a pas besoin de se cacher derrière un mur, de reprendre son souffle après qu'on ait pris 5 balles dans le buffet.
Ouais.
En opération, une balle, c'est fini.
Ouais.
Hein, hémorragie interne et extérieure. Et puis rien qui sauve, hein. Le médecin parfois il n'est pas sur place quand on est au Mali, il y a un infirmier, il n'a pas le matos nécessaire pour tenir le gars en vie, donc voilà.
C'est vite réglé, ouais.
C'est pas du tout pareil, on avait beaucoup d'attentes au Mali, parce que j'ai participé à l'opération Serval, on a fermé l'opération Serval, donc c'était la fin de l'offensive française, on a repoussé les djihadistes au nord du Mali, dans le désert, dans les montagnes, et ensuite on devait contrôler la zone. Donc c'est l'opération Barkhane qui s'appelle comme ça.
D'accord.
Et le principe était de contrôler les zones, de faire des patrouilles dans les villages maliens pour vérifier s'il y avait d'autres résistants djihadistes qui cherchaient à foutre la dizaine. Excusez-moi.
Bon, t'inquiète, hein.
Et voilà, donc c'était bien parce que justement là-bas c'était assez professionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être discipliné, bête et discipliné en fait. On fait son travail, chacun à son poste, et ça se passait très très bien. J'avais un adjudant-chef, donc il avait plus de 20 ans de bouteille, il est venu me tutoyer, il m'a dit tu ne m'appelles pas mon adjudant-chef, tu m'appelles par son prénom, et puis il n'y a pas besoin de faire des grands respects, de faire des grands saluts. On fait son boulot, on se paye une petite bière à la fin du service, tout va bien. Et ce qui a été le plus compliqué, c'est de revenir au régiment en France. Parce qu'au régiment en France, ce qui est important, c'est l'image, c'est la discipline. Donc quand on a fait 4 mois de manière très professionnelle avec l'armée et qu'on retourne au régiment où il faut absolument faire de l'image, il faut marcher au carré, il faut avoir son béret bien vissé sur la tête, il faut avoir bien ses manches relevées, il faut avoir ses rangers cirés. C'était très compliqué de revenir, on était pas rebelles, mais on avait envie de pousser quelques gueules de temps en temps. Hein.
Ouais.
Mais malgré tout, ça reste l'armée, les ordres, c'est les ordres, les supérieurs sont les supérieurs, même si on a des supérieurs qui ne sont pas partis en opération, c'est l'armée, voilà.
Ouais, je vois.
Quand on voit un jeune qui se rebelle et dit « Ah, bah vraiment, t'es pas à l'armée », bah c'est ça, hein. Parce qu'à l'armée, il y a les supérieurs et le respect dû
à
l'ordre au-dessus est prime sur le respect de la personne.
Ouais. Voilà. Ça, c'est une vision de l'armée que je ne suis pas forcément personnellement, mais voilà. Du coup, tu as fait quoi d'autre comme pays quand tu as dû faire des opérations?
Je suis parti en Pologne pour un ODA OTAN, donc l'organisation transatlantique nord. Et j'y suis allé en tant que traducteur. Donc j'y suis allé pour, je crois, 2 mois. C'était intéressant parce que voilà, c'était autre chose que de passer en mission armée, parce que là, c'était un entraînement avec les forces américaines, allemandes, canadiennes. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait. Les Français,
c'est pas mal, hein.
Mais c'était intéressant de pouvoir travailler avec les Américains, de travailler avec les Polonais, justement, avec les Allemands, excusez-moi. Voilà, donc j'y suis allé en tant que traducteur, pas officiellement parce qu'il y avait déjà un traducteur, mais j'y ai beaucoup aidé parce que j'avais mon diplôme polonais, donc c'était ça.
Le fameux bac, voilà, c'est
ça. Et pareil, j'ai oublié de te mentionner ça, mais à l'armée, j'ai eu un diplôme de langue payé par l'armée en polonais. Donc il y a plusieurs degrés, donc ça n'a pas de valeur dans le civil, parce que c'est exclusivement réservé à l'usage militaire, donc c'est tout ce qui est connaissance au niveau militaire, au niveau langage armé, au niveau différents géopolitiques militaires.
Ah ouais.
Et ça c'était intéressant, parce que voilà, grâce à mon polonais, j'ai pu postuler ce genre de diplôme de langue.
Bah après, il n'y a pas d'équivalent, par contre.
Il n'y a pas d'équivalent dans le...
Ça compte vraiment pour une carrière militaire.
Exactement.
Donc la Pologne, c'était bien, et puis...
Et je suis parti en Guyane aussi.
La Guyane.
Guyane française. Donc c'est un département français, donc on n'y va pas pour le conflit, on n'y va pas pour repousser les djihadistes. On y va simplement pour assurer l'ordre et la sécurité des Guyanais, puisque là-bas, il y a de l'orpaillage. L'orpaillage, c'est des clandestins, donc souvent des Brésiliens ou des Surinamiens, donc des pays frontaliers, qui viennent sur le territoire guyanais, qui est un territoire aurifère, donc où il y a beaucoup d'or.
D'accord.
Et ils vont faire des mines d'or illégales.
Donc,
ils vont creuser le sol français, du coup, puisque la Guyane est un département français, et ils vont voler l'or français, en quelque sorte. Donc, nous, on va intervenir là-bas avec la gendarmerie mobile pour les empêcher de faire ça. Donc, détruire les avant-postes d'exploitation minière et récupérer l'or qui a été pris. Voilà.
D'accord.
Parce que c'est illégal.
C'est vachement intéressant, ça. C'est enrichissant, je pense, comme parcours. Enfin, qu'est-ce que tu en as pensé, finalement, maintenant, si j'ai envie de te dire un petit bilan, trois ans après que...
Oui, c'est vrai, presque 3 ans après.
Ouais, presque 3 ans après que tu aies quitté l'armée.
Je pense que j'aurais pas été la même personne si j'avais pas été à l'armée.
Ouais.
Véritablement, parce que ça ouvre les choses plein de choses. J'ai pu aller sur différents climats. J'étais dans le désert du Sahara, j'ai été dans la jungle tropicale amazonienne, j'ai été pas en Sibérie, c'était en Pologne, mais dans le nord glacial. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre beaucoup de choses sur le monde tel qu'il fonctionne. Donc on voit la misère qu'il y a au niveau de la Guyane, parce que les clandestins, on a beau leur dire c'est des méchants, mais ils font ce qu'ils peuvent, en fait. Ils sont pauvres dans leur pays, ils n'ont pas de travail, du coup ils viennent ici pour récupérer de l'or. Bon, on leur interdit, on leur récupère l'or, et en quelque sorte parfois ça fait pitié, parce que bon,
ils ont
que ça à faire, en fait ils peuvent pas vivre autrement. Au Mali, on voit la misère avec les enfants qui viennent et qui se tapent entre eux, ils se tabassent entre eux, les enfants, pour récupérer les gâteaux qu'on leur donne. Et malgré tout, ce qui m'a beaucoup gêné à l'armée, c'est qu'on avait, quand on donnait à manger ou des vivres aux gens, on nous interdisait au niveau de la hiérarchie, parce qu'on disait qu'on n'est pas là pour faire de l'humanitaire. En même temps, quand on voit des enfants mourir de faim,
c'est
on a envie de leur donner. Donc voilà. Je te rejoins un peu sur, à ce moment-là, l'acceptation d'autorité supérieure, où en fait les ordres sont bidons. Et c'est juste pour dire des choses et pas pour appliquer concrètement l'aide envers la population, parce qu'on est censé être là-bas pour ça. Mais j'ai un avis assez fixé sur les agissements du gouvernement dans ces pays, que je vais pas forcément citer là.
Non, tu peux le garder pour toi.
Voilà.
quand bien même, ça a l'air plutôt génial en fait l'armée là, comme tu le dépeins. Pourquoi t'as pas continué ?
Pourquoi j'ai pas continué ? Telle est la question. La réponse est simple, c'est qu'au fur et à mesure des années, moi je ne me voyais pas du tout avoir une vie de famille avec ce mode de vie. Parce que on part régulièrement en terrain, en entraînement, en mission. Une mission d'entraînement simple, c'est environ 2 semaines. Donc à chaque fois, on part 2 semaines. Je ne me voyais pas avoir une femme élever des enfants dans ces conditions, parce que très peu rarement là. Je ne dis pas que c'est impossible. J'avais des officiers, j'avais des camarades aussi qui avaient une femme et des enfants, et ça se passait très bien. Après, il faut simplement essayer de concevoir l'idée, est-ce que c'est jouable, est-ce que la femme veut accepter d'avoir son mari qui part régulièrement en dehors de la ville, de la maison, est-ce que les enfants vont accepter cette idée. C'est quelque chose que je pense, moi j'ai fait ça tant que j'étais jeune, tant que j'avais soif d'aventure en quelque sorte, et soif de pays, de voyage, et après j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais vraiment envie d'avoir une vie de famille. Et avec tout ce genre de principes qui bougent dans tous les sens, de voyage, d'exercice, de manœuvre, c'était compliqué, voilà. Et puis principalement ensuite parce que je me voyais vraiment pas évoluer dans le milieu où j'étais. Et on peut très facilement et très rapidement évoluer dans l'armée. C'est beaucoup plus que dans une entreprise privée, puisque moi j'étais parti en tant que soldat de base, donc en fait seconde classe. Rapidement j'ai eu mon grade de première classe, c'est pas un grade, c'est une distinction, mais rapidement en fait on nous dit que voilà, première classe, un bon soldat qui respecte bien les ordres, qui suit bien ce qu'on lui dit de faire. J'ai été formé en tant que chef d'équipe, je suis passé caporal. Donc c'est déjà quelqu'un qui peut gérer une équipe, ou au moins 3 personnes. Et j'ai fini ma carrière en tant que caporal chef dans l'armée, du coup, et là je pouvais être capable de mener un groupe de 7 personnes. Bon, j'étais pas à ce poste-là, parce qu'il y a d'autres postes, et en général, on met plus des sous-officiers et des sergents à ce poste, ou des caporaux-chefs qui sont assez anciens dans le métier, donc au moins 10 ans d'ancienneté et d'expérience pour pouvoir bien gérer une équipe. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'à la fin de l'armée, du coup, les 6 derniers mois, je suis allé dans le centre de communication du régiment. Donc j'y suis allé pour 6 mois, et c'était vraiment tout ce qui concernait les événements du régiment. Ils organisaient régulièrement des marathons avec le régiment, des événements pour les blessés de guerre, des journées de recrutement et de publicité de l'armée de terre, et j'étais là-bas en tant que adjoint du communicant, en fait, de l'officier de communication. Donc on sortait régulièrement aussi le magazine du régiment, etc. C'était intéressant parce que ça donne une autre vision de l'armée, en fait. J'ai été 5 mois et demi dans le combat, dans le conflit, dans tout ce qui est contact et guerre de front. Et puis les 6 derniers mois, je suis passé sur vraiment la communication de l'armée de terre, donc c'est vraiment autre chose. Il y a énormément de métiers d'armée de terre, chacun peut trouver son compte.
D'accord.
Il y a vraiment plein de choses différentes. Voilà.
Et je me demandais un truc, là, si, mettons, il y a un de nos auditeurs là, qui a envie de s'engager demain dans l'armée, quel serait peut-être ton conseil pour lui ? Là, pourquoi il devrait y aller et dans quel cas il devrait peut-être pas y aller, tu vois ?
Le conseil par rapport à l'armée, je dirais que déjà, il y a des stages qui existent au niveau de l'armée de terre. Il y a des centres de recrutement qui organisent des stages. Des préparations militaires, on appelle ça. Et il part pour 2 semaines ou 3 semaines, je crois, avec une équipe de militaires, et ils font des activités comme n'importe quel militaire. Ils font du combat, ils font du sport, ils font des parcours dans la boue et tout, donc un peu, un peu mythique, quoi. Enfin, voilà, de l'armée. Et je pense que ça, c'est très important pour ceux qui veulent s'engager dans l'armée, pour se rendre compte, est-ce qu'ils sont faits pour avoir la possibilité d'obéir aux ordres. Parce que c'est dommage de partir sur un contrat de 3 ans ou 5 ans et au bout de 2 mois de se dire mais en fait je déteste la manière dont ils me donnent les ordres et j'ai envie de me barrer. Faut mieux savoir ça avant plutôt que d'avoir signé un contrat de 5 ans et de se dire au bout de 2 mois bah, je suis pas fait pour ça.
C'est un bon conseil.
Il y a différents stages qui se passent comme ça. Après, il faut vraiment sortir de l'idée que l'armée, c'est comme dans les films, c'est comme dans les jeux vidéo. Il y a absolument rien à voir. C'est vraiment un travail d'équipe et souvent les jeux vidéo essaient de montrer cette idée de force spéciale en fait.
Ouais.
Les gars qui y vont comme ça avec les flingues à foncer dans les bâtiments, à charger, etc. C'est souvent en fait ceux qui veulent faire les forces spéciales. Alors je dis pas que c'est impossible, mais c'est très très péchu quoi. Hein. C'est des niveaux physiques très très costauds. Il y a des profils très particuliers qu'ils recherchent parce qu'ils recherchent pas forcément le meilleur dans tout. Mmh. Ils cherchent la personne qui complétera au mieux l'équipe de la force spéciale qu'ils veulent. Et si on veut faire des trucs voilà, de libération d'otages, il faut aller là-bas. Par contre, c'est très, très, très dangereux.
Ouais, là, on
est... on risque pas sa vie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme ils sont... c'est des forces spéciales qui doivent intervenir sur des choses qui sont secret défense et beaucoup d'interventions à risque... on parle pas de c'est pas médiatisé donc quand on a une un force spéciale un soldat de la force spéciale qui meurt on n'en parle pas.
Ah ouais,
on a eu des militaires qui sont morts récemment là, 10 militaires qui sont morts en opération, on en parle parce que c'est des soldats de la régulière, de l'armée de terre régulière. Les forces spéciales, il y en a souvent qui meurent, on n'en parle pas.
Parce qu'on peut pas, du coup.
Parce qu'on peut pas, ils ont interdiction d'avoir un compte Facebook, ils ont interdiction d'avoir un compte sur Internet, je sais plus c'est quoi les autres résolutions. Parce qu'en fait, on peut remonter leurs traces grâce à leur compte Internet.
Wow.
Donc soit ils ont l'interdiction d'en avoir, soit ils peuvent en avoir un, mais tout doit être caché. Leur nom, leur visage, toutes ces informations qui pourraient permettre de remonter jusqu'à eux.
D'accord.
Et jusque, du coup, aux autres sphères du gouvernement, etc.
Ah ouais, donc oui, ça fait pas rire.
Non, il y en a qui adorent leur métier et qui veulent faire ça. Mais ouais. Faut pas se dire que... Faut pas y aller en disant « je vais être le héros national ». Non, on va faire une connerie, une bêtise... Personne ne saura, on va faire un acte héroïque, personne ne saura non plus.
Ouais.
On va mourir, personne ne saura non plus.
Ouais, c'est un peu quand même un métier, voilà. Il n'y a pas vraiment de reconnaissance.
Là, je te parle véritablement des forces spéciales.
Ouais, là, je sais que c'est par rapport aux forces spéciales, c'est particulier.
Il y a moins de trucs héroïques, c'est vraiment très stratégique. Hein. Quand on était au Mali, on n'avait pas foncé dans tous les sens. Pour attaquer les djihadistes et les rebelles maliens. Le but c'était vraiment d'avoir une opération cadrée avec les différents corps d'armée, le génie, l'infanterie, la cavalerie, les éclaireurs, l'artillerie, et voilà.
Merci.
On passait et c'est des généraux au-dessus qui dirigent.
Je vois. Voilà. Et du coup, vu qu'on a passé une belle partie sur l'armée, actuellement tu as quitté l'armée depuis bientôt 3 ans, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton métier?
Alors actuellement, je suis ambulancier, donc à l'hôpital.
Comment t'es venu déjà le métier finalement ?
Bon, alors j'avais quitté l'armée justement. Bon, il y a d'autres points de vue, mais bon, c'est différent. Je me sentais pas assez utile dans ce que je faisais. Véritablement, je voulais vraiment me sentir utile dans mon travail. Je voulais venir en aide aux gens. Et le fait de ne pas pouvoir le faire à l'armée, ça m'a bien refroidi.
Ouais.
Du coup, quand j'ai quitté l'armée, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire comme métier. J'étais passé par différentes possibilités, entre autres agent immobilier. Je me suis dit pourquoi pas, je vais faire ça. Et c'est le conseil que je peux donner, mais je dirai ça à la fin. J'ai fait un stage en immobilier.
Comme quoi on peut faire des stages à n'importe quel âge.
Tout à fait. Même j'avais quel âge ? J'avais 24 ans. Je suis allé voir quelqu'un qui connaissait mon père. Je lui ai dit est-ce qu'il peut mettre en contact. Il m'a mis en contact et je lui ai demandé si je pouvais faire un stage chez lui, au moins de 1 ou 2 jours, histoire de voir sur le terrain comment ça se passait. Et ça m'a pas du tout plu. C'était pas du tout ma tasse de thé, l'immobilier. Et je dis ah non, je me vois vraiment pas faire ça. Et j'ai directement arrêté l'idée de faire ça. Voilà, je dis je vais chercher d'autre part. Et je me suis dit, faudrait peut-être que je me dirige vers l'aide à la personne, il y a des trucs sociaux qui existent, il y a des trucs de la santé. Après, c'est vrai que j'ai vu un peu tout ce qui était dans l'armée, tout ce qui était intervention d'urgence, mais bon, sans plus. Et je me suis renseigné sur les différentes formations qu'il y avait, j'ai vu qu'il y avait infirmier, aide-soignant, ambulancier. Et comme je voulais pas me relancer dans les grandes études, parce qu'infirmier, je crois que c'est 3 ans d'études, bon, je me suis dit, c'est quoi la plus courte? C'était ambulancier.
Ouais.
On dit pourquoi pas, faut voir, je me suis renseigné. Et quand je me renseignais sur ça, je suis tombé sur quelqu'un que je connaissais, qui allait dans la même paroisse que moi.
Mmh.
Et lui était ambulancier. Je le vois, on me dit, écoute, est-ce que ça ne te dérangerait pas que je fasse un stage de 2-3 jours dans son entreprise, simplement pour voir comment ça se passe. Elle me dit, pas de souci. Même, alors pour l'instant, il m'avait pas dit ça, il me dit ça après, mais il cherchait à recruter quelqu'un.
Mmh.
Parce qu'ils avaient une entreprise avec plusieurs co-gérants et ils cherchaient à augmenter la possibilité de l'entreprise.
Ouais.
Je lui ai dit, pourquoi pas. Il m'a proposé justement de le voir, donc il m'a donné une date. C'était très officieux, en fait. Il n'y avait pas de contrat signé, il n'y avait pas de convention. C'était vraiment moi qui venais pour voir comment ça se passait tous les jours. Et je me suis dit, pourquoi pas. Parce que le métier d'ambulancier, ça consiste en fait à transporter les patients d'un endroit à un autre.
Mmh.
En France, on a les ambulanciers privés avec leur entreprise qui s'occupent souvent de ramener les gens à leur domicile ou de les emmener de leur domicile à un centre de soins.
Mmh.
Et c'est ce qui se passait du coup. On allait chez les gens, on les prenait en charge, on les installait sur un brancard parce que souvent c'est des personnes à mobilité réduite,
mmh.
des personnes qui sont malades, qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes âgées qui n'ont plus la force de marcher.
Mmh.
Et du coup, nous les ambulanciers, on est en charge de s'occuper de leur transport. On les invite chez eux à un centre de soins. Et ça m'avait beaucoup plu parce qu'on prend le temps justement à chaque fois avec un patient de s'occuper de lui de A à Z, on crée des liens, mmh. On se sent vraiment utile. On se dit que la personne, là, dans l'état où est-ce qu'elle est, elle ne pourra pas du tout aller d'elle-même à un centre de soins.
Ouais.
Donc, je me sentais vraiment utile. Et la formation d'ambulancier me convenait bien parce que c'était 5 mois de formation.
Ah bien.
C'est pas beaucoup.
Mais 5 mois de formation, à partir de quel niveau? C'est-à-dire, pour quelqu'un qui aurait le bac actuellement, il pourrait faire une formation ou il faut avoir
Oui, il ne faut pas forcément avoir un bac.
Mais, ah ok, donc c'est intéressant de savoir ça.
Ce qui m'a permis d'avoir la formation rapidement, c'est que grâce au bac, je n'avais pas besoin de passer de concours écrit.
Ah ouais.
Il y a différentes formes de centres de formation. Il y a les centres de formation de la Croix-Rouge, le centre de la formation de l'AFTRAL. Moi, j'étais à l'AFTRAL.
Mmh.
Il y a le centre des hospices de Lyon, pour Lyon, qui forment aux ambulanciers. Pardon, à la formation ambulancier.
Mmh.
Et moi, j'étais à l'AFTRAL. Donc, c'est un grand centre de formation pour tout ce qui est métier de la route. Donc, camion, installation de grues pour les chantiers. Et il y avait un institut de formation ambulancier, un IFA, on appelle ça.
Mmh.
Institut de formation ambulancier. Et je m'étais renseigné pour savoir quelle formation, quand est-ce que ça commençait. J'avais fini l'armée en octobre, 5 ans pile poil, après 2012, donc 2017. Et la formation commençait en janvier. Ben, je me dis top, juste après être parti de l'armée, je pouvais prétendre à la formation. Là, pareil, un autre conseil que je peux donner, j'avais moins de 26 ans.
Ouais.
Il y a énormément d'aides. Enfin, il y a 2 ans, quand j'ai fait ça, par rapport à la région, par rapport à Pôle emploi,
ouais.
Pour la formation. La formation coûte cher.
D'accord.
C'est 5 mois de formation, mais c'est environ 5000 euros.
Ouais, donc il faut les sortir.
Il faut les sortir. L'avantage que j'avais, c'est que j'avais fini mon contrat à l'armée, donc il y avait la fiche de l'employeur, j'étais à Pôle emploi et j'avais moins de 26 ans. La région m'a entièrement financé ma formation.
Super.
De A à Z.
Ouais.
J'avais pas à avancer un seul
sou. Un centime.
Tout était pris en charge par la région. Pour la reconversion, en fait, professionnelle.
D'accord. C'est intéressant de savoir pour ceux qui ont envie de se reconvertir aussi. C'est ça, changer d'orientation.
Donc, s'il faut changer de reconversion, moi je l'ai fait avant 26 ans. Je crois que je sais pas si les ont changé depuis, mais je crois que voilà, faut en profiter au plus jeune.
Plus jeune âge, quoi.
Oui. 35 ans, c'est compliqué. Après, il y a d'autres fonds qui existent, hein, les fonds GSIF au niveau professionnel. Il y a les points qu'on accumule au niveau de sa carrière pour ensuite pouvoir changer. Mais ça, je peux faire.
On maîtrise pas.
Je connais pas.
Ouais. Voilà. Et puis nous, on se concentre avant tout sur, on va dire, les métiers qu'on va faire juste après une sortie de diplôme.
Voilà. Tout à fait.
Tu as l'air d'adorer ton métier.
J'aime beaucoup.
Ouais, t'aimes beaucoup et ça se passe bien. Et puis, je ne saurais pas quoi te demander. Enfin, quelle autre question te poser là ?
Ce qui est important à savoir dans le métier d'ambulancier, c'est qu'il y a deux aspects en fait au niveau professionnel du transport sanitaire. On appelle ça le transport sanitaire.
Ouais.
Il y a les ambulanciers privés et les ambulanciers publics. Si on veut être les super ambulanciers qui sauvent les vies, il faut aller au SAMU. Le SAMU, eux, font des interventions sur les cas vraiment critiques, sur les accidents de la route, sur les gros accidents à domicile, sur les arrêts cardiaques, sur les intoxications, sur les grosses prises en charge. Et ils travaillent beaucoup avec les pompiers. Et c'est eux qui interviennent sur les cas vraiment critiques.
D'accord.
Les ambulanciers privés, eux, font un peu de tout. C'est-à-dire, ils vont principalement avoir leur agenda, en quelque sorte. Ils transportent les patients qui les appellent. Donc, en fait, comme un taxi, en fait, ils ont un agenda. Le patient appelle le numéro de l'ambulancier privé qui va l'emmener de tel endroit à tel endroit pour les rapatriements sanitaires, etc. Il faut que ce soit conventionné avec la Sécu pour avoir le remboursement direct, etc. Enfin, il y a beaucoup de réglementations qui existent à ce sujet. Ils vont aussi pouvoir aller en aide au SAMU. Donc, ils peuvent se mettre à disposition du SAMU. Et quand le SAMU reçoit un appel d'urgence d'une personne qu'il ne considère pas forcément urgence critique, urgence absolue, il va envoyer les ambulanciers privés qui sont de garde. Donc, par exemple, une personne qui va faire un petit malaise, mais on ne sait pas d'où, il va envoyer son ambulancier privé pour en apprendre plus, pour comprendre ce qui se passe. Et s'il y a besoin des ambulances d'urgence, les ambulanciers vont transporter le patient direction l'hôpital le plus proche.
D'accord. Ça a le mérite d'être clair.
Pour ma part, ça fait un an que j'ai réussi à obtenir un poste dans le public. Et d'accord. Pas dans le SAMU.
Okay.
Donc, c'est un ambulancier public, donc à Édouard Herriot, dans les Hospices Civils de Lyon, où en fait, on s'occupe exclusivement des transports internes dans les Hospices Civils de Lyon.
D'accord.
Donc, en fait, si on est un patient dans Édouard Herriot, par exemple, puisqu'il connaît Lyon, on peut très bien être transporté de cet hôpital à un autre hôpital dans la région, par exemple à l'hôpital de la Croix-Rousse. Parce que il y a par exemple un outillage là-bas plus performant ou un médecin qui est spécialisé dans telle ou telle maladie. On sait par exemple qu'à la Croix-Rousse ils sont très spécialisés dans tout ce qui est maladie infectieuse. Ceux qui suivent un peu l'actualité savent qu'il y a certaines personnes, alors c'est pas encore sûr, mais peut-être qu'ils sont ou vont aller ceux qui sont atteints du coronavirus.
Ouais.
Parce qu'ils vont y aller et pour là-bas, il y a des plus grands spécialistes de Lyon en matière de maladies infectieuses. Donc, il faut transporter la personne de l'hôpital dans lequel elle est actuellement à un autre hôpital, etc.
D'accord.
Pour faire des transferts, pour faire des examens différents, etc. C'est de moi je m'en occupe.
Ouais, donc il y a différents en fait, types d'ambulanciers, on va dire ça comme
oui,
ça.
En quelque sorte.
Tu as plutôt été très clair sur ces.
Chaque ambulancier a par contre le diplôme. D'ambulancier, il y a deux diplômes qui existent. Il y a l'auxiliaire ambulancier. L'auxiliaire, il a une formation que de 2 semaines parce que on lui apprend juste les gestes de secours d'urgence, mais il peut pas conduire l'ambulance tout seul.
D'accord.
Il faut qu'il ait avec lui un ambulancier qui soit diplômé d'État, donc qui a le DEA, le diplôme d'État d'ambulancier. Et c'est ce diplôme que j'ai passé qui fait 5 mois de formation.
Ok. Et en termes de volume horaire, du coup, peut-être.
Alors, au niveau du volume horaire, moi, j'ai plutôt de la chance parce que je suis dans le public, donc je suis fonctionnaire de l'État.
Okay.
Et donc, je suis limité à 35 heures. Je ne travaille pas les week-ends, ni les jours fériés, ni les nuits.
Ni les nuits, c'est
je
ça.
Je m'en sors plutôt bien.
Ouais, chanceux.
Après, évidemment, le salaire ne suit pas. Hein, je suis payé au SMIC.
Ouais.
mais c'est un choix parce que avec ma femme on préfère avoir une qualité de vie plutôt qu'avoir beaucoup d'argent et pas du tout avoir une qualité de vie. Ouais. C'est ce qui se passe, et le problème beaucoup d'ambulanciers privés, c'est qu'en fait il n'y a pas de de régularité au niveau des horaires. Il peut y avoir des petites journées de 7 heures comme de très grosses journées. Moi, la plus grosse journée que je peux faire dans le privé, c'est 15 heures d'affilée.
Ah ouais, donc c'est quand même assez physique. Hein.
15 heures d'affilée, je commence à 6 heures du matin, ouais. Je finis à 21h30.
Ouais. Donc, faut savoir ce qu'on veut. Ouais,
c'est on passe la journée dans l'ambulance, à enchaîner les patients de tel endroit à tel endroit, d'un autre hôpital à un domicile, les patients, etc. Et voilà, donc effectivement, c'est assez complexe. Mmh. Parce qu'il faut gérer sa vie de famille, donc évidemment, les heures supplémentaires suivent derrière. Et après, tout dépend de l'entreprise dans laquelle on est. Certains patrons vont faire le moins d'heures possible justement pour éviter de payer, hein, c'est leur bénéfice. Mais du coup, ça suit aussi sur la qualité de vie des ambulanciers. Mmh. Et certains patrons ne cherchent pas du tout à avoir la qualité de vie pour leurs employés, mais cherchent à avoir le plus de profit possible. Et il faut parfois courir très rapidement. C'est pour ouais. ça que je voulais quitter le privé, parce que certains ambulanciers...
c'est juste pour faire de la rentabilité.
Enchaîner les patients, ouais. peu importe l'état dans lequel ils sont.
De toute manière, c'est toujours une question de rentabilité, hein. malheureusement. Oui. Alors, du coup, on va bientôt finir. Donc, est-ce que tu aurais...
J'espère que je n'ai pas été trop long.
Oh, ça va, t'inquiète pas. Un petit mot pour la fin, un petit conseil à donner à nos auditeurs, quelque chose.
Un conseil que je peux leur donner, c'est de bien se rendre compte de la réalité du terrain dans lequel ouais. ils veulent se lancer. En général, quand on va voir un employeur ou quelqu'un, ça ne dérange pas du tout de prendre un stagiaire pour un ou deux jours.
Ouais.
Il faut oser demander la possibilité d'avoir un stage, de pouvoir se rendre compte de la réalité du terrain pour avoir un métier. Le mieux, effectivement, c'est une semaine ou deux de stage. À partir de là, je pense qu'il faut, je crois, avoir une convention de stage,
ouais,
etc.
C'est ça.
Peut-être plus compliqué. Mais un ou deux jours, déjà, on peut se rendre compte de comment ça se passe le matin en arrivant à l'entreprise, au travail, peu importe tout ce que c'est, et de se rendre compte qu'est-ce qu'on fait toute la journée.
C'est sûr.
Ça ouvre un peu plus les yeux sur juste les études. Moi, c'est principalement ça qui m'a ouvert les yeux, c'est que entre les études où on passe toute la journée à l'école et le soir on doit réviser, encore faire des devoirs, et aller au travail tous les jours et appliquer des connaissances par rapport à notre travail, c'est ce que j'ai eu en formation de cours ambulancier. Pendant 5 mois, c'était ça. On travaillait la journée, on revenait, on révisait. Et ensuite, le travail tous les jours n'a rien à voir. On a beaucoup de connaissances acquises qui sont utiles dans le travail, mais ce n'est pas du travail posé sur le bureau, quoi. C'est assez physique. Il faut porter les patients, il faut les soulever, il faut utiliser les brancards, il faut conduire toute la journée. Il faut surveiller les patients. Parfois, ils sont dans des états pas terribles. Hein.
Ouais.
Quand on sort du soin palliatif, ouais. c'est pas forcément les patients les plus jolis, les belles dames de 30 ans, c'est mignon, non, rien à voir, hein. Ça peut être des papys qui sont tout mauvais, des personnes qui peuvent vous vomir dessus,
ouais.
hein, donc voilà, la réalité du terrain est complètement différente par rapport à ce qu'on peut apprendre dans la théorie.
Ça, c'est comme tout le temps. Eh bien, merci Max d'avoir participé à notre podcast, et puis je te dis à bientôt.
À bientôt.
Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Maximilien de nous avoir partagé son expérience. Je tiens à vous remercier si vous avez réussi à tenir jusqu'ici, et aussi à vous remercier de suivre les épisodes de ce podcast, en espérant que cette expérience enrichisse votre vie et vous aide à ouvrir le champ des possibles. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Instagram et maintenant Spotify, Google Podcast et encore FM. Mon site internet est d'ailleurs en ligne depuis quelques semaines, alors laissez des commentaires et un maximum de pouces vers le haut. Vos encouragements sont très importants pour moi. Je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.